Salut tout le monde, avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je voulais vous parler d'Artae Immobilier. Artae Immobilier, c'est une société que j'ai fondée il y a quelques temps et qui produit aujourd'hui ce podcast. Alors si vous voulez vous lancer et investir dans l'immobilier, comme moi depuis de nombreuses années, c'est la bonne décision évidemment, je ne vous l'apprends pas, vous savez, vous connaissez mon appétence à l'investissement locatif, on en parle beaucoup sur ce podcast, mais peut-être que vous n'avez pas forcément de temps à y consacrer, peut-être que vous n'êtes pas sur place, peut-être que vous avez peur de faire des erreurs, peut-être que vous souhaitez simplement accélérer dans vos investissements et aller plus vite en déléguant. Ben, je pense qu'on est fait pour se rencontrer et échanger sur ce sujet-là, avec moi directement ou avec mon équipe. Et pour réaliser votre projet sereinement, Artae vous accompagne avec une offre clé en main, spécialement conçue pour les investisseurs. Artae Immobilier, c'est une agence spécifique pour les investisseurs, 100% dédiée à eux et à l'investissement locatif. De l'acquisition du bien jusqu'aux travaux, puis à l'ameublement, à la décoration, à la mise en location, vous êtes guidé, conseillé, accompagné de A à Z par notre équipe de pros que je recrute personnellement, et croyez-en mon exigence, je recrute que des gens compétents et composés surtout d'investisseurs aguerris ou, s'ils le sont un peu moins, que je forme moi-même aussi au métier de l'investissement immobilier. Optez pour les étapes dont vous avez besoin sans problème, bénéficiez de l'accompagnement qui vous correspond. On est aussi votre coach tout au long de ce projet, vous montez en compétence grâce à nous, c'est du clé en main, c'est de la délégation, mais ça vous permet aussi de monter en compétence. Vous pouvez nous confier la recherche du bien, vous pouvez nous confier uniquement les travaux, l'ameublement, la déco. C'est vraiment un accompagnement et un service sur mesure. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site artae.imo, vous trouverez quelques informations à ce sujet. Sur le site également aussi investiratoulouse.com pour ceux qui voudraient investir en région toulousaine, mais on n'est pas basé qu'à Toulouse, donc on peut aussi vous accompagner ailleurs. Mais ça vous permettra de voir un petit peu la qualité aussi de réalisation qu'on peut produire pour votre compte. Et puis aussi à nous suivre évidemment sur Instagram, Artae Immobilier, très simple, ou sur LinkedIn, Artae Immobilier. On partage aussi pas mal de réalisations qu'on fait, en tout cas pour le compte de nos clients. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, à contacter notre équipe pour échanger autour de votre projet directement par email à contact@artae.imo, tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà, merci encore d'être là. À très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao, ciao. Bonjour à tous, bienvenue sur ce format replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez, et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie, ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir, parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi, et que je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle, et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup, à très vite sur le podcast. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès « S'enrichir grâce à l'immobilier ». J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Money Tree. Je suis très content de vous avoir encore une fois cette semaine et je suis très content aussi de recevoir Emeline Siron. Salut Emeline.
Salut à tous.
Comment tu vas?
Eh ben ça va super, et toi?
Écoute, ça va, je te remercie. On enregistre cet épisode en début de matinée, donc on est toujours plus frais le matin pour, pour discuter de plein de choses. Et aujourd'hui, effectivement, on va discuter d'immobilier notamment, hein, surtout, je crois, mais aussi évidemment du parcours d'Emeline et puis de travaux, parce que je sais aussi que c'est ton truc, les gros travaux, t'aimes bien ça?
Ouais, j'aime bien les travaux, c'est vrai.
Donc tu vas...
La rénovation, ouais, tout à fait.
Voilà, donc tu vas nous raconter tout ça. Alors pour ceux qui te connaissent pas ou qui te voilà qui ont jamais forcément entendu parler de toi, est-ce que tu peux te présenter?
Bien sûr. Donc moi je m'appelle Emeline, j'ai 29 ans et je suis d'Île-de-France, du 92 exactement. J'ai un parcours professionnel full immo, puisque j'ai un BTS immobilier, une licence en gestion immobilière et un master en gestion des patrimoines immobiliers. Donc j'étais prédestinée à faire de l'IMO, je crois.
ça c'est certain.
C'est ça. Je dirais que j'ai toujours été un peu un électron libre. Je trouvais pas forcément ma place à chaque fois que j'étais dans un job. Et j'avais eu des expériences quand j'étais plus jeune en alternance qui avaient été un peu compliquées. Et du coup, j'avais fait, en sortant de cours, j'ai fait de l'intérim pour réussir à me positionner un peu et trouver ma voie. Et en fait, c'était assez compliqué de trouver ma voie. C'est vrai qu'on est vraiment, je pense, assez formaté pour rentrer dans des cases tout le temps. Et quand tu ne rentres pas forcément dans la même case que tout le monde, tu peux te sentir un peu seul ou totalement à part. Et donc, c'était le cas jusqu'à ce que je trouve une société vraiment géniale avec des entrepreneurs où on était très peu. Donc, c'était une société de gestion de fonds d'investissement européen en immobilier où j'y suis restée. C'était mon dernier job. J'y suis restée pendant 3 ans. J'étais asset manager. Donc, je m'occupais de tout ce qui était crapahuté un peu en Europe, partout, pour faire de l'acquisition d'immobilier de santé. Donc, que ce soit clinique, EHPAD, établissement autiste, dialyse, etc. Donc, c'était super intéressant. C'était des gros montants, des gros travaux, des réhabilitations. J'ai pu travailler, par exemple, sur la transformation d'un collège en EHPAD au Portugal. Donc c'est des gros projets ou création d'un hôtel pour des patients. J'ai fait un EHPAD en Italie. Enfin, des choses assez intéressantes avec, je dirais, des façons de travailler différentes, puisque en Europe, on a tous des cultures aussi assez différentes. Il fallait s'adapter et j'ai vraiment adoré mon job. Et en fait, pendant que je faisais tout ça, eh bien, j'ai commencé à investir. Et en fait, ça a été assez vite. J'ai fait mon premier investissement exactement le 28 août 2019. Il y a des dates comme ça qu'on n'oublie pas. Et puis, je me suis rendu compte. Alors, j'ai fait cet investissement-là de par mes connaissances de mon job. Je suis pas du tout. J'étais pas sur Instagram. J'étais sur rien du tout. Je me suis dit, ok, j'y vais, on voit, et je vais juste appliquer ce que je sais faire dans la vie de mon travail. Et je l'ai fait et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est plutôt cool, ça fonctionne. Et tu te rends compte que, bah oui, tu peux acheter quelque chose qui te rapporte de l'argent tous les mois et ok. Donc, mon premier investissement, c'était un immeuble de 8 studios.
Ok.
Et alors, c'est vrai que de par mon job, j'avais pas d'appréhension par rapport au montant, en fait. Tout simplement. Mmh. Parce qu'on me dit souvent, comment t'as pu commencer directement comme ça? Mais non, mais j'ai été façonnée comme ça, donc du coup, c'est pas quelque chose qui me stresse. Moi, pareil, les travaux me stressent pas. Je prends juste les chiffres, je fais une étude de marché, je fais mon business plan, et si c'est bon, on y va, et puis c'est tout, quoi.
Alors, tu peux nous en dire plus, justement, sur cet immeuble de 8 studios? C'était quoi la typologie de ville? Est-ce qu'il y avait des travaux, j'imagine?
Alors, on était dans le nord. Travaux, il y en avait un petit peu. Il y avait 2-3 apparts à refaire, dont un qui était vraiment délabré. C'était un appartement. Il y avait quelqu'un dedans, mais c'était vraiment insalubre. Donc, vous savez, le genre d'appart où vous ouvrez la porte, il y a les mouches qui sortent. Ça colle au sol.
Des blattes et tout, des trucs sympas.
Alors, j'ai pas eu les blattes, mais c'était... Il était aussi horrible à l'œil que par l'odeur.
Ah ouais.
Donc, voilà, c'était l'immeuble aussi de l'expérience. Hein. Ce que je dis aussi régulièrement aux gens, c'est que le premier, c'est celui où on met un peu la main à la pâte, où on prend de l'XP au max et où on fait des boulettes et on apprend et on évite de mettre 2 fois la main dans le feu. Et puis, voilà. Donc, celui-là, c'était vraiment mon immeuble de l'expérience. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, assez rapidement que ça fonctionnait, quoi. Que ça marchait bien. Et donc, ça, c'était donc 2019. Je suis passée quand même... C'était un immeuble où il y avait 26 000 euros de loyer à l'année. Et en un an, je suis passée à 36-38.
Donc, ok. En faisant quoi, du coup?
Bah, les travaux, c'était de la location étudiante, donc aussi des étudiants partaient, donc à chaque fois je remeublais, je refaisais un truc sympa, parce que l'ancien propriétaire, il louait vraiment un truc, limite il y avait des apparts où il y avait à moitié de l'eau, quoi, c'était un peu chaotique. Donc, et en plus, c'était très bien situé en centre-ville. Donc voilà, belle réno. J'ai refait aussi bah, toute l'électricité. Il y a une toiture d'extension que j'ai refaite avec une l'isolation. C'était quand même un peu de taf.
C'était quoi les montants d'acquisition de ce bien-là?
Alors, on était à tout, tout, tout que 280 000 euros de prêt, dont j'avais un budget de travaux de 50 000 dessus. Comme j'ai dit, il n'y avait pas tous les apparts qui étaient à refaire. Comme on est sur du studio, c'était pas non plus excessif. On n'est pas aussi, c'était 2019, hein, faut se dire pour ceux qui nous écoutent, que les montants des matériaux n'étaient pas les mêmes en 2019 qu'en 2023. Donc voilà.
Tu les as financés en fonds propres, ces travaux?
Non, j'ai mis dans le, c'est compris dans les
Dans le prêt,
280 000.
d'accord.
Ouais,
Ok,
c'est
ok.
un full package 280 000. Il y avait
Ok.
203 000, je crois, d'immeubles. Il était pas cher parce qu'il y a quand même pas mal de taf. Hein. Et j'avais
Ouais.
négocié parce que je m'étais positionné sur deux immeubles en fait.
Ok.
Le même propriétaire en vendait deux, un de 7 lots et un 8 lots. Et en fait, sur l'autre bien, l'autre immeuble, il avait fait des trucs, il n'était pas très clean. Il y avait un problème avec l'évacuation des eaux de pluie, ça se reliait. Enfin, c'était un peu un micmac. Et quand il m'a dit, mais je l'ai fait moi-même et qu'il m'a envoyé une petite photo avec sa pelle, je me suis dit, ah ouais, non. Et du coup, je me suis retirée de l'autre compromis parce que c'était un peu trop bancal, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis sur les. Je fais une parenthèse là-dessus, là, sur les eaux usées, parce qu'il y a des. Toutes les villes ne le font pas, mais certaines villes demandent un contrôle d'assainissement pour justement la vente d'un bien immobilier. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, là, ça permet effectivement de savoir si le pluvial va bien dans le pluvial et si les eaux usées vont bien dans les eaux usées et tout ne se mélange pas. Et pourquoi, pour ceux qui se posent la question, parce que bon, le pluvial dans les eaux usées, à la limite, c'est pas. Ça peut ne pas être gênant, mais en fait, c'est une question de volumétrie et de coût du traitement des eaux. Plus vous avez d'eau à traiter, plus ça coûte cher aux collectivités, notamment. Et donc, du coup, il vous oblige à vraiment faire la part des choses. Et attention, parce que si effectivement c'est pas conforme et que vous devez mettre en conformité pour la vente, alors c'est pas une obligation, hein. L'acheteur peut acheter avec la non-conformité, mais ça peut vite coûter très cher parce qu'effectivement, ça veut dire faut fracasser des dalles, poser des tabourets, etc. Enfin, ça coûte un peu cher, quoi. Voilà.
Tout à fait. Et pour le tester, bah souvent ils mettent du colorant, ce genre de choses-là.
Exact, ouais, exactement.
Et bon, moi, ça n'était pas une ville en tout cas qui testait. Mais quand je l'ai su, je me suis dit, ouais. Puis vraiment, il m'a dit, il m'a envoyé une photo avec sa pelle, et en fait, derrière, il avait vraiment creusé le truc. Et je me suis dit, mais en fait, t'as pas compris, ça se passe pas comme ça, la vie, quoi.
Il a fait une petite saignée, ça va s'écouler avec la pente naturelle, c'est bon.
C'est ça. C'est vraiment ça. Donc, c'était un sketch. Donc, je me suis retirée de ce compromis-là. Je me suis dit, et puis bon, ça me faisait commencer avec deux immeubles, 15 lots en même temps. Le deuxième, il était bancal. Je me suis dit, je commence avec celui de 8. On voit, il était mieux situé en plus. Donc voilà.
Ça,
Donc,
tu le gères à distance du coup toute seule ou t'as mis quelqu'un pour le gérer sur place?
alors au début, je gérais toute seule.
Ouais.
Ce qui s'est passé, c'est que pour le premier, je faisais aussi pas mal de choses moi-même. J'ai mon père qui aussi me filait un coup de main. Donc on faisait un peu bah, l'enduit, de la peinture, des reprises de sol, des reprises un peu partout, d'installer, faire un truc un peu sympa, quoi. Et puis après, ben ça c'est comme je vous ai dit, c'est le début, hein, c'est l'expérience. Moi j'ai plus le temps, quoi. Enfin, c'est quelque chose où si là je dois faire un peu de peinture, un peu d'enduit, je vais le faire, je vais prendre un peu de temps pour ça. Mais clairement faire une vraie réno, même pas en rêve. Je délègue tout ce qui est possible de déléguer maintenant, je le fais. Donc voilà, on se dit là ça a commencé ouais, il y a 3 ans et demi, et il y a un vrai avant et un vrai après
Ouais.
pour tout ça. Donc c'est ce premier immeuble tourne bah, très bien. Et donc en ça c'était 2019, 2020, je me suis dit bon, eh bien bah comme ça fonctionne, je vais peut-être continuer, je vais dupliquer mon truc quoi. Et donc j'en ai acheté 5 en 2020. Je me suis positionnée un peu partout, un peu comme le jeu au casino quoi, tu mets un peu sur tout le parti sur tout le tapis pardon et puis t'arroses et on voit. Et en fait donc j'ai acheté une maison que j'ai transformée en une colocation de 7 chambres, 7 salles de bain. Ça c'était en mai. Faut aussi penser à un truc, c'est que là on est en 2020, on est en plein confinement. Donc c'était pas évident. Pour signer, tout était très galère, il y avait eu des décalages, enfin c'était compliqué. Et pour les travaux, c'était aussi une tannée. Donc bah clairement déjà cette coloc de 7 qui devait démarrer en mai, Elle a démarré un peu plus tard, je dirais même plutôt août ou août que mai. Donc heureusement que j'avais un différé, hein. Mais c'est des petits moments où vous vous dites, ok, combien de temps va durer le confinement, quoi. Ensuite, en août, j'ai signé une coloc de 5 et une coloc de 6. Ça, c'était un package où j'ai signé au même propriétaire. C'était un divorce. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, c'est toujours pareil. Et donc, je me suis positionnée dessus rapidement. C'était du off-market. Et en fait, je les ai payés pas du tout cher parce que je crois que le vendeur, il devait de l'argent à son ex-beau-père, etc. Donc, ça a été très vite. Et en plus, je n'avais pas de travaux à faire pour ces deux biens-là. Donc, ça tournait, c'était déjà loué, pas de souci. Par exemple, pour vous donner une idée, ça, c'est j'ai payé 110 000 euros chaque coloc. C'est des petites maisons. Et en fait, il y a 1500, entre 1300 et 1500 euros de loyer qui tombent par mois.
Okay.
Pour, je crois que je suis à 579 euros exactement de crédit. Donc, confortable, sans trop de galères, enfin... Voilà, c'était le bon plan. C'est pas forcément mes best colocs parce qu'on est sur de la petite surface. Et qui dit, bah, petite surface, alors comme je l'ai pas payé cher, bah, petit loyer. Mais on va pas avoir forcément la même typologie, même en termes de locataires, que de la coloc un peu haut de gamme. Alors, il faut aussi se dire que coloc haut de gamme, les gens peuvent être beaucoup plus casse-pieds que des petites colocs, hein. Il y a aussi ça. C'est pas forcément ceux qui gagnent le plus qui sont les plus agréables à vivre.
Tu nous parleras un peu de justement cette différence que tu fais entre une coloc plutôt standard et une coloc haut de gamme. Qu'est-ce que tu mets en termes de service, notamment de prestations?
Alors, par exemple, coloc vraiment la classique, mais celle que moi je recommande même pas forcément aux gens parce que je trouve qu'on a avancé quand même dans cette ère de vivre en coloc où il y a de plus en plus justement de services, ce que je fais dans les autres rénos. Et là, faut se dire que comme je vous dis, j'ai acheté sans travaux. En fait, tout était déjà packagé. Donc j'ai une coloc par exemple où il y a 5 chambres et une salle de bain. C'est pas quelque chose que moi j'affectionne particulièrement. Je préfère, on va plus tendre déjà vers, regarde, celle que j'ai faite, c'était 7 chambres, 7 salles de bain. Donc une chambre, une salle de bain, où j'aime bien avoir, pour moi c'est méga max, une salle de bain pour 3, quoi. C'est le max que je fais. Et donc là, 5 chambres, une salle de bain, alors ça va que la salle de bain est confortable, mais c'est pas l'idéal. Donc comme j'ai pas acheté très cher, bah je mets des loyers qui sont pas excessifs et ça se loue très bien, j'ai vraiment pas de soucis là-dessus. Mais bon, j'aime bien tendre vers quelque chose de plus confortable, plus de service. Par exemple, une coloc haut de gamme, bah, je vais avoir sur les côtés des têtes de lit, j'ai des prises USB. J'ai une buanderie. Il y a des télés connectées dans chaque chambre. C'est plus spacieux. Je mets des câbles Ethernet pour que si un jour, eh bien, le Wi-Fi ne fonctionne plus, la box elle puisse fonctionner via les câbles Ethernet dans les bureaux. Il y a il y a beaucoup plus de choses de services. Là où sur ces petites colocs, bah, je mets même pas de télé dans les chambres. On reste sur du petit budget, en fait, tout simplement. Donc ça convient à toutes les bourses. Une coloc haut de gamme, je vais pouvoir aller sur du 470-480 euros charges comprises par mois. Là où une coloc vraiment plus classique, on va être sur du 300-310 euros max charges comprises. Donc c'est quand même totalement différent, mais ça me permet de toucher à tous les budgets. Et je me rends compte d'ailleurs avec le temps que j'ai beaucoup plus de turnover quand même sur une coloc plus chère que sur une coloc qui est pas chère, quoi. Voilà.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Ouais. Ouais, ouais.
Ok. À cause du prix, du coup, pas forcément. Donc finalement, les services viennent pas compenser le turnover, quoi.
Bah, pas forcément. Pas forcément. Et je pense que ça dépend aussi le style de population que tu vises. Mais comme j'ai dit, c'est quand on a des gens aussi qui ont de l'argent, ils vont être aussi plus exigeants. Là aussi où on est, je dirais un peu plus, peut-être retour d'XP, je vais être un peu plus embêtée avec une coloc de 7 ou de 8 qu'une coloc de 3.
Ouais,
coloc
c'est
de 3, j'ai pas de retour, quoi. Je reçois le loyer, j'ai jamais de message, il se passe quasiment rien. Une coloc de 7 ou de 8, il y a un peu plus de police, je dirais, à faire. Par exemple, semaine dernière, coloc de 7, en plus c'est des jeunes parce que j'ai un partenariat avec une école, et la femme de ménage m'envoie des photos, Et c'était un carnage. La cuisine, il y avait des poubelles partout, il y en avait plein l'évier. C'était différent. Et bien sûr, ils bottent tous en touche. Non, c'est pas moi, c'est celui de la chambre 5, c'est celui de la chambre 6, etc. Donc, bon, ça se règle, moi, clairement. Je sais, des points de charge mentale qui me stressent vraiment plus. J'envoie un message à tous les parents. Et la femme de ménage, bah, elle agit, hein, tout simplement. Et puis, je leur dis que si ils agissent pas, bah, le mois prochain, il y aura une refacturation parce qu'elle fait beaucoup plus d'heures que prévu et c'est tout, quoi.
Donc, alors, ça, tu vois, ça me fait... du coup, ça me fait écho tout ça parce que tu dis, parce que je voulais te demander comment tu gères sur tes colocs. Déjà, les types de baux. Est-ce que tu fais un bail par chambre, par exemple, ou est-ce que tu as du bail solidaire dans tes colocs, ou est-ce que tu as déjà traité du bail solidaire? Non, jamais. Ok. Donc ça, bon, c'est intéressant. Et comment tu gères justement les dépôts de garantie? Parce que finalement, la garantie sur un coloc, la problématique, c'est que tu la prends que sur la chambre, parce que la responsabilité, elle est très difficile à pointer, quoi.
Alors, clairement, si c'est par exemple une télé qui lâche, bon, ça m'est jamais arrivé, donc je touche ma tête. Télé qui lâche, bah, selon le sujet, en fait, ils prennent avec l'assurance, hein, ils se débrouillent. Entre eux. Et si vraiment il y a tout le monde botte en touche, moi c'est réparti sur les dépôts de garantie de tout le monde. Et c'est bien écrit dans le bail que autant il n'y a pas de caution solidaire par rapport au montant du loyer. Et là-dessus, chacun vraiment un bail individuel. Et je sais qu'on voit aussi partout sur internet, les gens disent ouais, faites un bail solidaire et tout.
Non, mais c'est impossible.
Ouais, mais autant peut-être sur une coloc de 2-3, s'ils se connaissent et qu'ils sont potes, ils vont peut-être le faire. Ok. Et à la limite, je me dirais, c'est en contrepartie d'un loyer moins cher, parce qu'il va falloir mettre quelque chose en face. Par contre, maintenant, moi, enfin, je fais que du bail individuel, hein, clairement. C'est plus simple pour tout le monde, mais bah, ils sont bien prévenus qu'il y a aussi un règlement de coloc et c'est bien écrit que s'il y a des dégradations, en fait, c'est réparti pour la quote-part de tout le monde. Parce que c'est... Alors, j'ai pas aussi encore... une fois, j'ai pas eu le sujet, mais moi, je suis pas le genre de propriétaire à facturer, par exemple, des verres ou des couverts. Si je vois qu'il y a une coloc où il en manque... Et j'en ai, hein, des jeunes, par exemple, les plus jeunes, je sais qu'ils mangent leur espèce de pasta box, là, parce qu'ils ont la flemme de faire à manger, ils mettent ça au micro-ondes, et en fait, ils laissent les couverts dedans, et ils jettent, et ils se rendent pas compte. Donc, je me retrouve régulièrement, milieu d'année, où en fait, il y a plus de couverts. Je suis clairement pas le genre de personne à dire « Je vous compte tous 5 euros parce qu'il faut rajouter des couverts. » Non, je pense que si le business plan d'acquisition, il a bien été fait, vous devez avoir un cash flow qui soit pas forcément en aigle et être assez confortable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai de mon côté. Je me dis que si je suis assez confortable pour prendre du cash, je suis aussi assez confortable pour racheter des couverts, quoi. Donc, c'est le genre de truc que je facture pas les verres, les couverts, un tapis par-ci, par-là. Enfin, je m'en fiche. Par exemple, j'en ai une où j'ai 3 arbres à couper dans la cour commune. Je prends en charge les 3 arbres à couper, quoi. Je le refacture pas.
Ouais, ben je partage cette approche avec toi, effectivement. Je pense qu'il y a des fois... Si, en plus, très franchement, si à chaque état des lieux, tu dois vraiment compter tous les couverts, tous les trucs...
Non, mais c'est
une plaie. Honnêtement, c'est une plaie. Même si c'est pas toi qui fais l'état des lieux, c'est quand même une plaie pour la personne qui le fait. Et je suis pas sûr que finalement, au final, elle le fasse vraiment, tu vois.
Non, je pense pas. Voilà. Faut être honnête avec soi-même et avec les autres.
Non, mais clairement.
Je pense pas. Et même moi, quand je fais l'état des lieux, j'en ai fait un ce week-end... alors l'appart, il est récent, il a moins de 6 mois. Je lui dis bon, clairement, j'ai acheté, il y avait 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères. J'écris ça, s'il manque de cuillères, ben, vous en rachetez, sinon j'en rachèterai. J'ai pas envie de gratter là-dessus, quoi.
En plus, si tu le dis ouvertement, franchement, à l'entrée, les mecs, tu leur dis voilà, vous cassez 2 verres, vous les remplacez. C'est juste, voilà, c'est juste du bon sens. Franchement, la plupart du temps, ils le font. Et d'ailleurs, parce que moi aussi, j'ai pas mal de jeunes en termes de locataires, tu vois, parce qu'on fait beaucoup d'hyper-centre-ville, donc on a beaucoup de petites surfaces. Et du coup, tu te rends compte que les jeunes sont quand même assez à cheval sur tout ça, parce que c'est leurs premières expériences, etc. Et ils essaient rarement de te niquer, tu vois. Ils sont plus me tapez pas, j'ai tout fait bien, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le retour que j'ai de manière générale. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a aussi des gens qui saccagent des trucs. Ça, tu pourras peut-être nous raconter des anecdotes. On l'a tous vécu. Mais de manière générale, je trouve que la population jeune, alors oui, t'es un peu le papa et la maman, quoi. Des fois, t'es un peu dans l'éducation.
Ouais.
Mais je trouve que ça se passe bien, de manière générale.
Oui, ça va. Ça va. Alors, je dirais que Il y a un peu deux salles, deux ambiances. Il y a ceux où effectivement ils sont comme ça et c'est top. Mais moi j'ai quand même une forte population jeune où ils disent rien. Il peut se passer un truc et ils s'en foutent. J'ai une coloc de 8, la meilleure que j'ai faite, où j'ai mis le max de services partout et j'ai fait une belle salle de bain où en fait j'ai fait d'ailleurs à double flux. Comme c'était, je pouvais mettre à cet endroit-là une salle de bain pour 4, c'était la salle de bain du rez-de-chaussée, eh bien je me suis dit ok, une salle de bain pour 4, ça colle pas vraiment à ce que j'ai dans ma façon de penser. Comme il y a de l'espace, j'ai mis deux cabines de douche. Enfin, deux douches, pas deux cabines de douche, j'ai évité les cabines de douche. Deux douches avec des sas et avec des portes pour fermer, et en fait ça fait un peu côté vestiaire,
ouais,
où ils peuvent être deux à utiliser une salle de bain, et c'est quand même très pratique. Et en fait, il y a un joint d'une des douches en bas qui a dû, je sais pas, il s'est rétracté, bref, ça a fui. Et en fait, ça a fui, et du coup c'est venu tremper le devant des cabines de douche. Et en fait, la plinthe, elle s'est décollée, et tu te rends compte que c'est tout pourri, moisi derrière, qu'il y a limite des toutes petites bestioles de bois, là, qui peuvent ressortir. Et j'ai dit, mais en fait, les gars, ça, c'est pas une fuite qui date d'aujourd'hui. Ça doit bien avoir 3 bons mois, en fait. Je dis, ça vous vient pas à l'esprit d'envoyer un message? Non?
Ouais.
Oh, bah non, c'est pas grave. Ouais, mais si, en fait, c'est grave, il y a une assurance, il y a des choses qui se font, et on va bien résoudre le problème. Ça te dérange pas d'avoir les pieds un peu mouillés le matin? Non, bah, pas de souci, quoi. Donc, ce genre de choses-là. Ou alors, je me suis rendu compte qu'il manquait 6 spots en bas. Moi, j'adore mettre des spots partout, basse consommation, mais je trouve que c'est pratique. Et je dois en avoir, je sais pas, il y a eu beaucoup de surface, peut-être une trentaine de spots dans une grosse coloc en rez-de-chaussée. Et en fait, il y en avait 7 qui fonctionnaient plus. Mais ils ont mis, je sais pas, 5-6 mois à me prévenir. Alors je leur dis, mais attendez, il y a une équipe technique quand même. Et ils se déplacent, ils bougent, etc. Je leur dis en plus, moi, s'il y a 2-3 spots, je les prends à ma charge parce que clairement, mais prévenez, en fait, ça vous dérange pas de plus avoir de lumière dans la salle de bain? Non. Ils ont commencé à bouger quand il y avait plus de lumière dans les toilettes. Et ils m'ont dit, bon, là, ça devient un peu embêtant. Ouais, mais les gars, quand même. Donc, beaucoup, les jeunes, il faut, et c'est aussi pour ça que moi, je mets des femmes de ménage. Alors, je corrige ce que je viens de dire. Je mets des personnes pour gérer l'entretien.
C'est bien.
Tout à fait, car, c'est une femme, donc c'est vrai que je pense pas à ça, mais, on a raison de me le faire remarquer de temps en temps. C'est pour ça que donc il y a une personne qui passe dans les colocs, les immeubles, je fais juste les parties communes, mais pour les colocs qui viennent, elle vient toutes les semaines. Ça me permet de garder c'est un peu l'œil de Moscou quoi, de garder un œil sur la coloc, qu'est-ce qui se passe vraiment. S'il y a par exemple quelque chose de cassé, genre les spots ou la plaque électrique par exemple, ça m'est arrivé une fois où elle avait été cassée. En fait, au moins, je suis au courant, quoi. Il n'y a pas de danger pour personne, etc. On agit. Et puis, ça me permet aussi, comme je le dis aussi, vivre en coloc, c'est un peu comme vivre en couple. Il y a toujours des sujets qui cassent les pieds de tout le monde, notamment sortir les poubelles, le ménage, ce genre de choses-là. Et du coup, en mettant en réalité quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, ça permet de supprimer ce genre de petites galères. Ils vont aller se prendre la tête pour autre chose, le rangement de leurs chaussures, j'en sais à rien, mais pas pour la salle de bain, il y a toujours la poussière partout, c'est insupportable, là 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 là. Donc voilà, moi je mets des personnes pour l'entretien.
l'entretien, ça me paraît essentiel aussi, toujours pareil, comme tu dis, par rapport à la responsabilité de chacun, et moi je veux pas faire ci, moi je veux pas faire ça. Et sur la partie, il y a un truc qui me pose question aussi sur les colocs, c'est le coût de l'énergie. Qui a pas mal augmenté ces derniers temps et qui est porté par le propriétaire bailleur, parce que là aussi c'est impossible de défalquer quoi que ce soit pour chaque personne. Comment tu gères ça là aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà vu des augmentations ou tu es encore sur des tarifs qui sont...
Alors moi je le fais en bonne intelligence avec eux en fait. Je leur ai dit par exemple il y avait une augmentation l'année dernière, là j'ai pas augmenté, il y avait une augmentation et je leur ai dit écoutez, alors moi je suis très sympa et je veux bien prendre en charge plein de trucs, par contre je paye pas les lacs à votre place. Je me prends une grosse augmentation, Moi, ça couvre pas. Du coup, bah, je suis obligée d'augmenter tout le monde de X euros dans les charges. Et en fait, il n'y a pas de souci. Ils regardent aussi les infos un peu comme tout le monde, hein, les locataires. Donc, ils en sont conscients. Donc, je dirais que j'ai pas trop de galère sur les LEC. Le mieux, c'est quand même. Alors, je dirais que les petites colocs, je refile les contrats ELEC directement. Okay. Par exemple, j'ai deux colocs en Île-de-France de Troyes, où là, c'est eux qui portent le contrat et moi, je suis pas impactée.
Et ils se refacturent entre eux, ils se débrouillent, quoi.
Ouais, ils se débrouillent. Et okay. Ça, c'est le must. Et j'ai aussi des potes qui ont des colocs, mais j'ai l'impression que c'est plus l'Île-de-France, tu vois, qui fonctionne comme ça. Ou en tout cas, quand t'as des personnes qui restent un peu plus longtemps, quoi. Quand on arrive sur la coloc de 7 ou de 8 et qu'il y a beaucoup de jeunes qui bougent ou qui arrivent en septembre, qui partent en juin, etc., bah c'est beaucoup plus compliqué, chronophage, et clairement ça marche pas de faire porter le contrat. Et surtout que on est sur des gros montants. On va être sur du 250 euros par exemple par mois d'ELEC. Et donc dire à une personne bah tu portes les 250, ça peut refroidir fortement. Donc bah je refacture tout simplement. Je n'ai pas trop eu de problème jusqu'ici côté refac ELEC. Et je leur dis toujours, si je vois que ça explose sur un mois par exemple, qu'ils se sont emballés, ça m'est arrivé hein, une fois où je leur ai dit bah là en fait vous avez une refacturation parce que je sais pas, soit vous laissez la play allumée, enfin moi je veux pas savoir, vous vous débrouillez, mais je prends, enfin je suis pas Mère Teresa quoi. Donc j'ai pas particulièrement trop de soucis là-dessus. À voir comment on va se faire manger si ça continue d'augmenter aussi. Je t'avoue que pour les prochains biens que j'achète, prochaines rénovations, je pense que je ferai peut-être une étude de panneaux solaires quand même.
Ah ouais.
Okay. Ouais.
Si t'es en mono, ouais. C'était un mono,
ouais.
En copro.
Oui, bien sûr, chaud. Tout ouais. À fait. Parce que je pense que ça peut être quand même super intéressant. Moi, je vois parce que mes parents, ils habitent dans le sud de la France. Ils sont en dessous de Perpignan et ils viennent d'acheter de changer de résidence principale dernièrement. Ils ont fait poser des panneaux solaires. Alors ouais, c'est un coût à l'acquisition, mais quand tu te rends compte, même, je sais que dans le sud, enfin moi, ils ont acheté, il y a une piscine. Et bah la piscine ça pompe de l'entretien et tout, etc. Et en fait là où ils payaient, je sais plus, on était sur plus de 150 euros par mois juste de d'ELEC pour la piscine, ils sont passés à moins de 15 balles. Donc dis ouais, en fait c'est plutôt cool. Il m'avait dit le mois dernier une facture de 6 euros parce qu'il y avait eu un max d'ensoleillement et en plus bah il revend l'ELEC aussi à EDF. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les côtés grosses colocs. Moi, les grosses colocs aussi, c'est pas de l'appart, hein, c'est de la maison. Donc à réfléchir.
Oui, d'autant que je crois qu'avant, en fait, tu pouvais pas utiliser l'électricité que tu produisais pour ta propre consommation. Ouais. Et maintenant, tu pouvais que la revendre, finalement. Et maintenant, il me semble effectivement que tu peux.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc ça, c'est beaucoup plus avantageux, effectivement, que de juste la revendre. Tu peux en revendre une partie, mais en consommer pour toi, ça, c'est cool. Ouais. Okay.
Ouais. Et info, d'ailleurs, là-dessus, tu peux la revendre que si t'as fait poser par un pro qui est agréé, etc., qui te fait un truc. Ouais. Parce que, y en a aussi, moi, je reçois des messages qui me disent, ouais, je vais le faire poser par un pote, t'inquiète, ça me coûte pas cher, etc. Ouais, mais en fait, le pote est pas forcément agréé, habilité à le faire. Et du coup, bah, vous ne pourrez pas revendre puisque ça sera pas validé par EDF. Donc, faut pas oublier ce petit détail.
Ouais, donc pour tous les cyclistes qui nous écoutent, si vous pensiez faire de l'électricité en pédalant chez vous, c'est mort quoi.
Aussi.
Vous pouvez pas, personne vous l'achètera quoi. faut un truc un peu plus quali.
Mais il y aurait des choses à faire là-dessus, hein. C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as structuré du coup fiscalement, juridiquement tous ces investissements depuis le début?
Ok. Alors c'est vrai que de par mon ancien job, moi je suis très formatée société. C'était toute ma vie quoi. Je fais que ça. On crée pas mal de boîtes, que ça soit entre chaque pays, etc. Donc j'ai toujours été un peu dans l'optimisation. J'ai tout investi, quasiment tout en SCI. En gros, toute ma vie est en SCI. J'en ai trois. J'ai également une holding qui est relativement récente, qui date de 2 mois d'ailleurs. Et j'ai deux investissements, mais deux appartements que j'ai achetés en Île-de-France que j'ai fait en nom propre. En fait, clairement, pourquoi j'ai fait ça? J'ai commencé en SCI parce que bah je gagnais ma vie correctement avant. Et j'avais pas forcément besoin d'avoir de l'argent qui tombe dans ma poche. Et en même temps, comme je vous ai dit, je suis formatée société. J'aime le côté empire du truc. J'aime avoir mon groupe qui dégage et du cash que je peux réutiliser pour d'autres projets, etc. J'ai vraiment une vision très création et développement de boîte. Et en fait, quand j'ai beaucoup investi, comme je vous ai dit, en 2020, 2021, j'ai fait les travaux, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ma vie commençait à prendre beaucoup de place, ma vie d'entrepreneur aussi, sœur. Et donc, j'ai dû quitter mon job. Contrairement à beaucoup de gens, moi, c'est vrai que j'avais un job que j'adorais. Donc bon, j'ai quitté mon boulot. Et en fait, là, je me suis dit, OK, bon, je quitte mon job. Par contre, tous mes investissements vont être en société. Donc là, je vais plus avoir du cash qui rentre dans ma poche directement. Donc en fait, j'ai fait deux investissements en nom propre, en LMNP, et qui viennent du coup remplacer en fait ce qui pouvait tomber dans ma poche avant, quoi.
Et du coup, si ça remplace, ça veut dire que tu vas passer à LMP parce que t'as pas de revenu salarié en face.
Je me suis paxée. Voilà, okay. Tout simplement. Je me suis paxée pour venir. C'est vrai que tu fais bien d'aborder le sujet. C'était donc dans la continuité de la stratégie. Je me suis dit, OK, j'ai plus de revenus. Si j'ai que ces revenus-là, LMNP, comment je fais? Puisque j'ai un conjoint, mais chacun faisait sa déclaration comme ça. Et donc, on s'est paxé directement pour que ma déclaration perso vienne rejoindre la sienne. Et du coup, de par les déclarations, en fait, je ne bascule pas en LMP.
Et lui est salarié, du coup ?
Lui, il a sa propre boîte, ouais. Aussi. Mais par contre, il a bien des fiches de paye qui tombent comme ça régulièrement. Okay.
Et donc, sur le LMNP, vous êtes en indivision ?
Sur un appart, ouais, on est en indivision. C'était son premier appartement pour lui, d'ailleurs. Je lui ai mis le pied à l'étrier. Et sur un autre, c'est uniquement le mien.
Ok. Bon, très bien, très bien. Et tu projettes de te salarier sur... je sais pas si tu as créé une holding, par exemple, il y a 2 mois. Tu dis tu projettes de te salarier sur une holding demain.
Alors, mon côté... en fait, il faut se dire déjà pourquoi est-ce que j'ai créé la holding tardivement. C'est vrai que j'ai aussi pas mal de gens qui me posent des questions en me disant « Mais pourquoi tu l'as pas créé dès le début ?» Faut arrêter parce que c'est un truc qui est carrément à la mode qu'on voit partout, ça. Ouais, c'est... je fais de la SCI, je crée ma holding, j'en ai même pour pousser le truc, c'est arrêter de mettre dans vos têtes, oui, je crée une SCI où je vais être tout seul dedans, je crée la holding, et comme ça, il y a et la holding et moi, et on est deux. Ouais, mais en fait, la banque, elle voit un bénéficiaire effectif, c'est toi, qui est le seul, du coup, détenteur des sociétés, et en plus, vous essayez de faire financer un bien par deux coquilles vides. Donc la première, la SCI qui n'a jamais tourné et qui vient d'être créée, et en même temps la deuxième qui est la holding qui n'a jamais tourné non plus. Donc je dirais que si vous aviez une autre activité pour créer une holding pour rejoindre ensuite une SCI, pourquoi pas, pour faire transiter les flux, maintenant dès le début c'est absolument inutile, vous vous tirez une balle dans le pied, ça rassure pas du tout une banque. La SCI aussi rassure une banque parce que y a des associés dedans. Et qu'en fait, du coup, il y a des garanties sur plusieurs têtes. Donc, si là, vous sucrez tout ça en mettant une seule tête, c'est plus compliqué. Je dis pas que ça se fait pas. Mais je dirais que c'est plus exotique et il faut se dire aussi que les banquiers sont pas forcément formés pour comprendre tout ça. En plus, s'ils comprennent rien, ils vont se dire, je vous mets dans la case pro. Donc, vous allez avoir des conditions pro qui vont pas forcément être les plus avantageuses. Donc, je reviens à nos moutons. J'ai créé plusieurs société, SCI, ou d'ailleurs j'en ai deux où j'avais pris mon père comme associé au début parce que prendre un membre de sa famille c'est toujours mieux. Déjà vous basculez directement dans la case SCI familiale, donc on évite la SCI pro. C'est vrai que quand vous allez voir la banque avec un pote en SCI, il y a un petit pourcentage de chances qu'ils vous mettent aussi dans le côté pro. Et ça m'est arrivé.
Donc le risque vu de la banque est beaucoup plus élevé aussi que sur un projet familial, très clairement.
Tout à fait. Alors qu'en réalité, c'est vrai que si on va rendre dans le sujet, c'est clair qu'eux, ils se disent la famille, ça reste toute la vie, les potes, pas forcément. Mais en l'occurrence, on peut aussi mieux s'entendre avec un pote que ses membres de sa famille et ça peut créer d'autres soucis, d'autres conflits. Mais bon. Donc j'ai deux SCI j'avais deux SCI avec mon père où on était associés donc dedans. Une SCI où j'ai mis, alors bien entendu. Au début, je l'ai fait simplement par choix fiscal pour comme j'étais en dessous des 38 000, j'avais 15% d'imposition, c'était très bien. Pour tous ceux qui nous écoutent, on ne peut pas faire ce genre de choix. C'est interdit. Si vous créez plusieurs sociétés pour justement payer moins d'impôts, c'est pas bon. C'est pas bon. Le fisc, il est pas OK. Puisque si la première question que vous vous posez à l'esprit, c'est pourquoi je fais ça pour payer moins d'impôts, voilà, déjà, vous êtes en warning. Faut juste se dire ça. Donc, il faut quand même qu'il y ait une histoire avec. Et moi, l'histoire était relativement simple. Du coup, c'est que j'ai une SCI pour côté immeuble et une SCI côté colocation. Pour scinder le truc. J'ai également, ma coloc de 7 où j'ai trop de choses à te raconter en fait. Ma coloc de 7.
On a le temps, prends ton temps.
Je l'ai acheté avec un ami d'enfance. En fait, c'est le deuxième bien que j'ai acheté et l'opportunité venait de tomber là comme ça et je m'étais dit OK, lui il m'avait dit qu'il voulait investir et qu'il voulait que se former en même temps avec moi. Il avait du cash de côté, il avait une bonne situation perso, OK. Je m'étais dit bon, mon père, déjà j'ai fait un invest, une société avec lui, je vais pas le saouler de trop, je vais faire une autre SCI, OK. Écoutez, ça s'est bien passé sans trop de problèmes, bien que maintenant il est sorti de la société, je l'ai sorti. Dites-vous que les amitiés d'un temps elles vont pas forcément évoluer dans le même sens tout le long de la vie. Il s'est avéré que, alors c'est quelqu'un que j'apprécie en tant que personne, mais c'est vrai que ça matchait pas en termes de je faisais tout quoi. Clairement, il s'est énormément reposé sur moi, c'était assez chronophage et dur à gérer. Et en fait, à la fin, je lui ai dit, écoute, c'est plus possible. En fait, il faut que tu sortes de la société parce que je suis sympa, mais encore une fois, moi, je suis pas bénévole. Donc, si je fais tout le taf, mais que tu restes dans la boîte, en fait, ça va commencer à me gonfler. Et comme je comptais créer ma holding, on a tout simplement fait de la cession de parts.
Ok. Voilà. Donc, tu as créé la holding. Cette holding a racheté, du coup, les parts de ton associé.
Voilà, et moi, j'ai repris ses parts à lui. Okay. Alors, plusieurs sujets, d'ailleurs, là-dessus. Hein, c'est vrai qu'on va sur plusieurs trucs. Déjà, j'ai eu un prêt pro. OK, sur ce bien-là. Puisque, amis, directement, ils nous ont mis... C'était la bread. Ils nous ont mis en prêt pro.
Donc, taux plus élevé.
Taux plus élevé. Alors, à l'époque, ça allait. Ça allait, puisque j'ai eu... 1,53.
Mais ça restait plus élevé, peut-être de 0,30 ou...
Beaucoup plus élevé, puisque mes autres prêts, j'avais eu 1%.
Ouais,
donc,
voilà.
Mais bon, à la limite, c'était pas trop grave. Il avait fallu mettre de l'apport, aussi, plus d'apport. Là où, par exemple, mon premier investissement, que j'avais fait 6 mois plus tôt, j'avais mis 0 apport, ok. Ce bien-là, on a mis quand même 32 000 euros à deux. Alors, il faut aussi se dire que il y avait 125 000 euros de maison et 125 000 euros de travaux. Vous refaites ça aujourd'hui, c'est chaud. Parce que en ce moment, déjà, c'est un peu plus touchy, les banques. Et financer autant de travaux que le prix de la maison, ça coince. Ça coince parce qu'ils se disent toujours, et si jamais ça ne se fonctionne pas, comment on récupère les fonds? Est-ce que le bien va valoir autant? Donc, c'était assez touchy. Donc, on a mis 32 000 euros d'apport, donc répartis à deux. Et en fait, ils avaient pris des garanties, c'est le genre, la banque avait pris des parachutes sur parachutes, quoi. Puisque ils avaient pris, donc, nous deux en caution, plus chacun, ils avaient pris les deux parents de chaque côté.
Mais non.
Ah ouais, ouais, énorme. C'était improbable. Plus, c'est bien entendu, c'était une hypothèque.
Oui.
Donc, la vraie, hein.
Surtout que les cautions, souvent, c'est 120-130% du truc, donc ce qui se couvre vraiment toute la partie intérêt, etc.
Non, mais là, ils ont pris un parachute plus le parachute du parachute et tous les parachutes derrière, quoi. Donc, j'avoue que moi, j'étais très sûre de mon truc, donc je savais qu'il n'y avait aucun risque là-dessus. Et c'était OK, hein, dans ces moments-là, c'est vrai que vous êtes un peu face au mur en se disant, OK, j'ai un prêt, je le prends. Clairement, je le prends. J'avais un an de différé sur la maison et 2 ans de différé sur les travaux. Donc voilà, plutôt cool. Il faut savoir que du coup, j'avais un crédit en totalité de 280 000 euros, ok, et que j'ai fait réestimer la maison. On est aux alentours de 400 000 euros. Donc, ça va. Pas de galère. Concernant la...
Comment t'as pu réévaluer le rachat départ justement
J'ai pas fait la réévaluation du rachat départ sur le montant de la maison.
Okay. Tu l'as fait au nominal plus, enfin,
oui,
patrimoine net sur la valeur d'achat, quoi.
Absolument, absolument. Et c'est pour ça que si jamais cession de part il doit y avoir, il faut le faire au début. Au début, puisque la société ne vaut rien, puisque j'étais en déficit. Elle vaut rien si on ne compte pas les actifs, bien entendu. Mais pour que... C'est un peu les gens, quand ils me demandent comment je fais pour réemprunter, j'ai deux SCI, etc. Eh bien, si vous voulez rassurer la banque, bah faites réévaluer aussi vos actifs immobiliers et faites intégrer ça à votre bilan comptable. Le truc, c'est que vous risquez aussi de payer un peu d'impôts, mais vous allez quand même pouvoir potentiellement relever de la dette. Donc, ça va venir, si vous relevez de la dette, ça vient à rajouter et de l'actif, mais du passif aussi. Donc, on va rééquilibrer un peu les choses, mais c'est quand même intéressant de le faire. Et donc, moi, je l'ai simplement fait, la société tourne pas, je suis en déficit, je l'ai fait au nominal, tout simplement. Et en fait... Comme on avait mis un peu de billes dedans, j'ai simplement fait un rachat de compte courant d'associé. Parce qu'on n'en s'était pas encore remboursé assez. Le truc, je l'ai acheté en 2020. Il a commencé à tourner en avril 2021 de mémoire. Donc, non, il y a pas. Même si la société elle tourne, pas de quoi rembourser les comptes courants.
Ouais.
Donc, comme moi, lui, il était stressé. En plus, il s'est rendu compte que gérer un bien immo, par exemple, un petit appart en location saisonnière, c'est pas la même chose que de gérer une coloc de 7. Et bien que moi, j'ai automatisé quand même plutôt bien mon truc et que je me sentais pas oppressée débordé, quoi. Eh bien, on n'est pas tous fait pareil, et c'est ce que je dis aussi régulièrement. On peut tous devenir entrepreneur demain, mais on n'est pas tous fait pour l'être. Et là, en l'occurrence, eh bien, lui, il est clairement pas fait pour gérer des biens immo plus lourds avec plus de gens, parce que c'est aussi un peu du management, hein, clairement. Et je voyais bien que il était au bout de sa vie, il était en stress tout le temps. Et en plus, moi, c'est quelqu'un que j'avais de l'affection pour lui, que j'aimais bien, donc. Quand vous voyez quelqu'un qui est en détresse comme ça, en plus vous prenez le pas pour compléter, pour pas l'impacter trop. Mais en même temps, moi je suis business, full business, donc je suis sympa, mais je le fais pas pour rien, quoi. Et donc je lui dis, écoute, clairement toi ce que t'aimes c'est la crypto. Eh bien moi je te rembourse ton compte courant, on te fait sortir comme ça, pas de galère. Et puis c'est bon, chacun. Et en fait il m'a dit oui, quoi.
Parce que ça l'a soulagé aussi finalement.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut se dire oui, mais il y a quand même un impact financier, etc. Il aurait pu. Ouais, mais en réalité, quand vous tablez là-dessus, déjà vous vous rajoutez de la charge mentale. Ensuite, vous rentrez en conflit avec quelqu'un et en conflit direct. Et il y a des gens qui détestent le conflit. On n'est pas tous faits pour aller à la guerre. Et donc, je pense que la tranquillité d'esprit, parfois, elle a un prix. Même tout le temps, elle a un prix. Et donc là, au moins, moi, il est mieux de son côté, il n'y a pas de galère. Et en plus, je rajoute au-delà de tout ça, c'est que moi, j'ai contacté la banque par rapport aux cautions, puisque comme il est sorti, c'est toujours le sujet aussi qu'on se pose.
C'est
comment on fait par rapport aux cautions? Est-ce que il reste caution et les parents aussi? Parce qu'en plus, là, du coup, j'ai toute la famille. Et en fait, la banque donc m'a dit que comme la société tournait bien, il n'y avait pas de galère, tout était OK, eh bien, ils étaient tout à fait enclins à accepter, du coup, de le retirer, lui et ses parents, de la caution. Donc là, c'est en cours. Je vous dis ça puisque, en réalité, la cession a été signée fin décembre et on est début février. Donc, c'est assez récent. Là, vous avez les infos en one shot.
Bon, cool, top. Si je reviens sur la holding, du coup, donc cette holding aujourd'hui, elle détient une partie de tes sociétés commerciales, j'imagine.
Elle détient, elle détient du coup les sociétés. C'était stressant d'ailleurs tout ce côté-là, le côté cession, c'est que moi je voulais quand même continuer de le faire au nominal, hein, comme je vous ai dit. Donc le nominal, donc on se dit que c'est au capital social. En gros,
c'est la valeur de départ, quoi, on va dire.
C'est voilà, la valeur de départ, mais la valeur comptable, quoi, aussi.
Ouais.
Et quand une société ne tourne pas et que le prêt, moi, il a pas été encore remboursé énormément, enfin, la société vaut pas grand chose. Donc, si il y a pas réévaluation de l'actif qui a été intégré, du bien immobilier qui a été réintégré dans le bilan, la boîte ne vaut rien. et factuellement, elle ne vaut rien. Donc, dans ces moments-là, vous allez faire de la cession, puisque si vous laissez une boîte tourner et faire du bénéfice, et que vous voulez faire une cession par la suite, et que, eh bien, vous allez vouloir faire de la cession de part, vous serez, si c'est plus de 30 000 euros de bénéfice, en gros, obligé de faire appel à un commissaire aux apports, qui a un coût, ça ne vaut pas rien. C'est-à-dire que là où une part qui valait 1 euro égale une part au début, par exemple, eh bien, on peut très bien dire une part égale 5,50 €, quoi. Donc, vous allez être obligé de racheter les parts des autres et ça peut avoir un coût assez impactant, rapidement. Donc, ça, c'est dans le cas potentiellement de création de holding, etc.
Et ouais, c'était là ma question, du coup, Emeline, sur effectivement toute la société commerciale, notamment celle qui vend des formations.
Ouais.
Elle, tu l'as faite déjà remonter sur la holding ou tu prévois de le faire plus tard?
Alors, là, elle est tout est scindé. Mes activités immobilières sont d'un côté, la société holding formation et marchande, tout ça, c'est de l'autre côté. Et je suis en plein sujet là-dessus pour justement rallier les deux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que une société, du coup, vraiment commercial qui fait du chiffre, qui fait de la vente, quoi, qui dégage des fonds, eh bien, si vous les faites, bah là, en l'occurrence, moi, ça remonte dans la holding. Si ça tombe dans ma poche, bah, je paye la flat tax, quoi. Donc, bah, ça me coûte de l'argent. Et c'est clair que tu ne récupères pas tout. Alors que si, du coup, je rejoins cette holding-là à mon autre holding patrimonial IMO, eh bien, je paierai très peu. Donc, ça me permettra, en réalité, d'utiliser le cash que je peux dégager de ma vraie activité commerciale, coaching, etc., formation, pour réinvestir, moi, dans des biens immobiliers de l'autre côté. Voilà.
Ok, très bien. Je ferai, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par tous ces sujets, je ferai une capsule spécifique sur les montages, notamment les régimes Murphy qui sont très intéressants sur l'optimisation de la fiscalité. Je le ferai, je pense, dans quelques semaines. Juste parenthèse d'ailleurs très intéressante que j'ai apprise récemment. Donc quand on fait une cession, évidemment toi, quand tu vends à une boîte, tu payes évidemment des impôts hein, sur la plus-value que tu fais sur tes actions. Mais quand tu es acquéreur, tu dois payer les taxes aussi, d'enregistrement, les droits d'enregistrement, etc. Les taxes, normalement, sur une acquisition comme ça de taxes, d'actions, tu vas être à 0,1%. Mais si ta société est à prépondérance immobilière, ça va être 5%. Donc, tu passes de 0,1% à 5%. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent.
C'est le cas. Il a payé, enfin, il a dû payer, il y avait 5% à payer. On était sur pas grand chose puisque là, c'était vraiment du.
C'est toi qui les as payés, du coup. C'est toi en tant qu'acquéreur, du coup.
Alors, en fait, il y a eu. Dans ces moments-là, tu peux négocier, hein. Tout est une sujet de clause.
Ouais, il est de coutume pour l'acquéreur.
En gros, moi, ce qui s'était passé avec lui, c'est que moi, enfin, en gros, j'ai payé plus cher puisque moi, je payais l'avocat. Et il prenait l'enregistrement. Donc, okay. Pour vous dire, en gros, il a payé, je crois, 319 €. Et moi, j'ai payé beaucoup plus. Ouais. Mais oui, enfin, tout est possible, ce n'est que de la clause, quoi. Autre truc, d'ailleurs, j'y pense comme ça. Je reparle sur le commissaire aux apports. Donc, c'est clair que si vous voulez faire de la cession de part, faites-le avant que la société dégage du bénéfice. Mais quand vous faites une acquisition, et c'est pour ça que moi, la holding a été constituée maintenant et pas au tout début, il s'est quand même passé 3 ans, c'est que bah vous faites des travaux, il y a quand même beaucoup de choses à déduire, donc en fait pendant quelque temps la société ne tourne pas. Et attention, ce n'est pas parce que vous avez un résultat négatif que le cash flow n'est pas positif, ok? Et ça, je sais que c'est très dur pour beaucoup de gens d'entendre ça. Tu peux gagner de l'argent tous les mois dans ta poche, mais tu peux avoir un résultat négatif puisque tu vas venir impacter d'autres choses dans ton dans ton bilan comptable. Et donc voilà, on fait les cessions de part avant que la société soit en positif, c'est mieux pour tout le monde. Après, vous pouvez faire de la cession sans passer par un commissaire aux apports, mais ça va uniquement si la société du dessus est une SC. Le truc, c'est que SC, donc société civile, moi j'aime moins puisque société civile dit responsabilité, quoi. Une SCI, vous avez voilà, pour petit rappel, SCI, s'il y a une galère, vous êtes appelé, société civile. Dans une SAS, eh bien, vous n'êtes pas appelé, c'est différent. Donc, si la société coule, vous coulez pas avec, sauf, bien entendu, signature de caution solidaire ou autre en plus. Mais donc, vous pouvez faire une SC, vous n'aurez pas besoin de faire de mettre un commissaire aux apports, forcément. Ça peut être une valo à vue de nez comme ça. Par contre, là, il y a un vrai sujet de responsabilité selon l'activité du dessus, etc.
Ouais, totalement. Et je conseille, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, on peut conseiller qu'à tout le monde de se faire accompagner sur tous ces sujets, parce que c'est assez complexe quand même. Il y a aussi beaucoup de jurisprudence, donc ça veut dire que les textes qu'on lit aujourd'hui sont pas forcément toujours appliqués. Donc c'est important de se rapprocher quand même d'un homme ou d'une femme de droit.
Je dirais les deux ont été, c'est renseignez-vous, grattez les infos un peu partout, parce que parfois aussi il y a certains avocats qui peuvent avoir l'habitude de faire tout le temps la même chose, le même schéma, et on peut se reproduire le même schéma tout le temps, et en fait ils vont pas forcément aller gratter un peu plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire et ça et si je rajoute un doc. Donc l'apprentissage, hein, on apprend et on se forme, nous, et on va chercher un peu les infos partout, et en même temps effectivement on se fait accompagner, surtout que bah pareil, moi par exemple j'ai pas d'enfants, mais quand il y a des enfants qui sont dans tout ça, eh bien ça peut être plus compliqué puisqu'il y a du mineur. Pareil, quand vous êtes avec des associés, on en a pas parlé, le pacte d'associés, il est ultra méga important. On s'associe pas avec quelqu'un sans faire un pacte derrière. Le pacte, c'est quoi? Ça va être la Bible. C'est-à-dire qu'une société lambda, elle est créée comme ça, sans forcément trop rajouter de règles. Maintenant, on l'a fait par exemple avec un pacte, c'est que si vous êtes avec votre associé, vous n'avez pas fait de pacte, eh bien, il pourrait très bien dire, bah moi, je vais vendre mes parts à quelqu'un d'autre et je ne te contacte même pas. Ok. Il y a des clauses qui vont quand même être à mettre en place pour dire, bah si tu as envie de sortir, tu vas devoir me proposer tes parts moi avant, ou alors je vais devoir aussi confirmer que cette personne, je veux bien l'avoir dans la boîte, etc., etc., histoire de pas se retrouver avec n'importe qui dans la société. Il y a aussi d'autres choses où, par exemple, si votre associé vous associe avec quelqu'un, cette personne se marie et fait un mariage communauté de biens réduite aux acquêts. Ça veut dire en gros sans contrat de mariage. Vous n'avez pas de contrat de mariage, la personne, bah je sais pas, il y a un divorce, bah vous pouvez vous retrouver un peu emmerdé, ou on peut venir vous réclamer des choses s'il n'y a pas eu de pacte derrière pour bien dire que ça doit être délimité. Pareil s'il y a un décès. S'il y a un décès, l'idée c'est de pas se retrouver avec toute la famille du défunt dans une société, quoi. On sait jamais. Il y a une multitude de choses à faire et à réfléchir dans un pacte. C'est pas si compliqué, mais c'est pas non plus si évident. Oui, je conseille effectivement de se faire aussi accompagner là-dessus.
Puis ça doit être bien rédigé, ouais. Bien rédigé surtout. Donc il y a ouais. Des choses qui peuvent se mettre dans les statuts, il y a des choses qui peuvent pas s'écrire dans les statuts, notamment les notions de valo, de boîte, etc. Et ça doit partir, enfin, de valo à la revente éventuelle, et ça doit passer dans un pacte extra-statutaire, effectivement. Mais déjà, ouais. Vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup de choses dans les statuts, et ça a beaucoup plus d'impact juridiquement, d'ailleurs, qu'un pacte, pour ceux qui le savent pas.
D'accord.
Mais, voilà.
Après, donc, c'est vrai que, je me permets de te couper, mais... Les statuts, ce qui est chiant, clairement, c'est que c'est enregistré au greffe. Et à chaque fois, vous êtes obligé de repayer pour refaire l'enregistrement, etc., les modifs, blablabla. Un pacte, dites-vous que c'est un doc que vous signez là sur, je sais pas, vous l'envoyez par PDF, la personne, elle signe, et c'est signé. Le pacte a une vraie valeur juridique. Alors, bien sûr, il n'est pas enregistré, c'est pas pareil. Mais si vous devez faire des modifications dans un pacte, c'est beaucoup plus simple que repasser par le greffe, par un fiscaliste, etc., etc.
Totalement, ouais, totalement. Emeline, j'aimerais bien qu'on parle de travaux.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter d'où te vient cet amour des travaux, et puis peut-être aussi t'attarder un petit peu sur ton anecdote que tu partageais sur les réseaux sociaux de caves inondées. Ça m'a beaucoup intéressé.
Yes, ma super cave. Alors, les travaux, en fait, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose pas très souvent, mais j'ai quand même réfléchi à ce sujet, d'où ça me venait. En fait, quand j'étais plus petite, mes parents, ils avaient une activité, ils avaient un garage automobile. Et ils bossaient déjà beaucoup tout le temps, je les voyais pas énormément. Et ils s'étaient dit, un jour, on va, un peu le typique de la personne qui vit en Île-de-France, on va acheter une maison secondaire en Normandie. Et en fait, ils ont fait ça, et ils ont acheté une ancienne boulangerie vers Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, tout ça. Et c'était quand même, il y avait 4000 m² de terrain, plus de 250 m² de maison, je crois. Mais quand je vous dis que c'était une boulangerie taudis, il y avait tout à faire. Et en fait, j'ai connu cette maison, je crois qu'ils l'ont achetée, je devais avoir 4 ans. Ils l'ont revendue, je crois que j'avais 26 ans, un truc comme ça. Je n'ai jamais connu cette maison terminée.
Ah ouais.
Il y a toujours eu des travaux de fait partout. Et donc, j'ai un peu grandi aussi avec des travaux. Et en fait, j'ai un petit côté manuel où j'aime beaucoup aussi. Et comme mes parents bossaient énormément, moi, pour passer du temps avec eux, le week-end, quand on était dans cette maison-là, on y allait tout le temps, et bien du coup, je faisais des travaux avec eux où je faisais du jardinage. Et donc voilà, ça, je pense que ça me vient de là. Donc j'étais avec mon papa, j'avais, je sais pas, j'étais vraiment jeune et je faisais de l'enduit, je faisais de la peinture, je faisais des petits trucs à droite, à gauche et il me montrait et j'étais contente de voir ça. Et donc, même si d'un côté on peut se dire que ça aurait pu un peu me dégoûter de voir jamais cette maison finie, moi j'en retire des moments aussi de peut-être de partage où au final ça ne m'a pas du tout dégoûté et j'aime beaucoup les travaux. Alors, je pense qu'on tire aussi des expériences de ce qui a pu se passer dans notre vie et donc de ce qu'on ne veut pas reproduire aussi. C'est que clairement, moi, mon père, comme il adore, il est très manuel, il adore faire les travaux. Et là, il est encore en train de faire les travaux, pour vous dire. Donc, même après la retraite, c'est travaux full patate. En réalité, j'ai vraiment adoré faire ça. Et je ne me vois pas ne pas faire de travaux dans un bien, mais par contre je délègue beaucoup, je ne fais pas moi-même, voilà. Donc là où j'ai vraiment appris ce côté-là, c'est que je n'ai pas envie de moi passer 3 piges à faire des travaux, c'est hors de question. Là clairement je sais, comme j'ai dit, il est dans le sud, il vient de racheter une maison, il est en train de faire des travaux et je dis bon Dieu, ça fait depuis octobre dernier qu'elle est en travaux. Il y a beaucoup moins de mètres carrés, il y a beaucoup moins de taf, et elle est pas finie. Et il y a des gens comme ça qui adorent faire par eux-mêmes. Alors aussi, je sais que quand t'es à la retraite, je pense, ça te fait une vraie activité. Mmh. Tu fais les travaux, tu fais ta maison, ok, ça te coûte moins cher, pas de souci. Mais moi, par contre, ça, c'est un truc où ça m'a vraiment bloqué. C'est que j'aime bien être sachante et savoir comment ça se fait, ok. Par contre, le faire, ça me gonfle, quoi. J'estime que mon temps, je peux mettre mon temps pour gagner de l'argent et générer de la valeur ailleurs que pour faire des travaux. Et puis, je pense qu'il y a des professionnels qui sont très bons pour ça. Alors oui, bien sûr, il y a toujours le côté arnaque où c'est chiant et on se fera... Enfin, il y a toujours un côté confiance où tu te feras avoir un moment dans ta vie, et je pense que ça nous arrivera à tous. Maintenant, quand tu commences à connaître des gens et que tu as confiance et que tu as un réseau, tu te fais quand même un peu moins avoir. Et donc, moi, je délègue au max. Donc voilà d'où vient cet amour des travaux. Le côté réno, valeur, générer de la valeur, j'adore ça, créer de la boîte et tout. Et du coup, ça me stresse pas. Et en fait, même dans mon ancien boulot, et c'était mon job aussi, je gérais toutes les parties travaux. Donc, non, j'étais pas forcément sachante. Je suis pas un bureau d'études techniques, quoi. Je suis pas un BET. Mais en fait, je vais avoir aussi le côté sensibilité user, vraiment utilisateur. Mmh. Mettez-vous à la place des gens sur place aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'architectes qui devraient le faire. C'est que parfois, tu peux avoir des lubies et des projets de dingue. Et en fait, tu te rends compte qu'en opérationnel, à vivre sur place, c'est improbable. Ouais. Donc, vraiment, ouais, le côté travaux, moi, les transfos, j'adore les avant-après, en fait. Transformer des trucs qui n'existent pas, ou même dans mon ancien boulot, le côté qu'on a créé un EHPAD en Italie, où vraiment t'arrives, t'as un terrain, il y a rien, et tu transformes et tu poses là, fiut, un EHPAD de 4000 mètres carrés, tu te dis ouais, c'est un gros joujou, c'est trop bien, et t'y vas. Moi j'y allais avec mon petit casque, tu vois, j'étais la seule nana, et je me baladais tout 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 dans les trucs un peu partout. Ah ouais, là c'est pas mal, là ça va, ça par contre c'est pas terrible, la finition elle est pas ouf, le papier peint, franchement vous pourrez faire quelque chose les gars. Et en fait, pour je pense qu'il est important de rappeler aux gens, c'est que vous avez pas besoin de tout connaître sur tout. Il faut juste être accompagné par des gens qui sachent mieux que vous. Et c'est un peu comme dans une boîte, là, ok, j'ai une société, du coup, Evermine, où on est 9. Mais en fait, je recrute des gens plus compétents que moi sur plein de sujets. Et j'ai pas besoin d'être forcément meilleur qu'eux. Alors, bien sûr, ils vont m'apprendre des choses et je vais leur apprendre des trucs. Mais il n'y a pas besoin de tout savoir. Et en fait, je me suis aussi rendu compte, parce que j'étais un peu comme ça au début, hein, le vouloir tout connaître sur tout et pas forcément me laisser accompagner, parce que c'est un peu problème de gestion du contrôle, etc. Et ben vous perdez un max de temps. Vous perdez trop de temps à vouloir tout faire vous-même, alors que quand tu délègues, alors bien sûr, c'est là où je vous dis, il faut avoir des petites notions. C'est un peu comme vous avez une idée, vous voulez prendre des développeurs pour créer une app web. Si vous avez aucune notion du truc, la personne en face peut très bien vous dire ça va me prendre 6 mois, alors que ça va lui prendre 2 semaines, quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir des petites notions sur certaines choses pour justement pas avoir l'air d'une quiche et avoir l'air conscient de certaines choses. Mais il faut juste se faire entourer. Donc, le côté travaux, bah, j'ai appris plein de choses aussi dans le cadre de mes diplômes master, j'ai fait de la technique de bâtiment. C'est quelque chose que j'aime en plus, et je pense que quand vous faites les choses avec passion et que vous aimez, que vous y mettez de l'intention, bah vous apprenez 3 fois plus, parce que c'est trop cool. Par exemple, moi, je sais pas, quand j'ai appris à faire des joints en silicone, j'étais trop contente, quoi. Là où d'autres gens ils se disent mais complètement timbré, je me suis dit ouais, en fait c'est cool, j'ai plus besoin forcément de payer quelqu'un juste pour faire un petit joint en silicone dans ma cuisine, parce que c'est un truc qui prend un quart d'heure, même pas, alors que le déplacement va te coûter 90 €. Enfin, voilà, hors achat du matériel. Donc voilà le côté travaux.
Et tu arrives donc en tant que femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices parmi les auditeurs, ouais, de Monitree, tu arrives en tant que femme justement à trouver ta légitimité quand tu discutes avec des artisans, parce que c'est quand même un milieu assez macho de base, quoi.
Ça, c'est une question que j'ai très très couramment. Alors, dans mon ancien job, faut se dire que ça me arrivait régulièrement quand même d'arriver sur des gros chantiers. Bah, par exemple, vous voyez le collège a transformé en EHPAD là. Je suis arrivée en rendez-vous, j'étais avec mon boss. On était 2 et en fait, je me suis retrouvée avec une armée avocats, ingés de tous les côtés. Ils avaient tous 50 balais. Et moi, je suis au milieu, tu vois, une petite blonde qui se balade là et qui est avec son carnet de notes et tout. Et clairement, la crédibilité, c'est archi chaud au début. En plus, bah, je suis jeune. Donc clairement, pourquoi tu es là?
T'as rien pour toi, quoi. T'es jeune, t'es une femme et t'es blonde. T'as rien.
Grave, grave. Et en fait, c'est avec les échanges que tu peux avoir avec les gens, quand tu as des remarques un peu pertinentes où ils se disent ah ouais, en fait, bah ça cogite un peu là-dedans. Et puis je pense qu'il y a aussi une force de caractère. C'est que moi, j'ai toujours été élevée un peu dans un environnement aussi masculin. Bah déjà le côté travaux, mais en plus, bah comme je vous ai dit, mes parents ils avaient un garage automobile. Mon frère, il est dans la robotique automobile aussi. Du coup, j'ai toujours été dans les travaux, les voitures, ce genre de milieu-là, et j'ai jamais été ultra méga féminine. Et j'ai beaucoup plus de potes mecs que de filles. Et du coup, je dirais que de un, je suis pas susceptible. Donc tu vas me faire une blague déplacée sur les femmes, clairement, je vais te répondre, je vais plutôt la jouer en répartie que en affront, genre ah je suis choquée, c'est vous rendez pas compte, etc. J'aime pas du tout, je trouve que c'est de la perte de temps. Moi je préfère plutôt amener la personne qui est en face de moi, qui va avoir peu d'estime pour moi, à ce qu'elle se rende compte psychologiquement qu'en fait elle a fait elle-même une erreur, plutôt que en front dans les gens, où en plus tu arrives dans une zone de conflit qui est toujours très désagréable à gérer, où bah en plus il y a de la solidarité, hein, donc le côté homme, ils vont se rallier. C'est en fait, je préfère la jouer un peu comme une partie d'échecs, tu vois, où je me dis déjà dans ma tête, je me dis dès le début j'ai gagné, de un, de deux, je pense que être une femme c'est génial, tu vois. Hier j'ai fait une intervention, je suis partie de 2 associations dans un lycée, pour parler de l'entrepreneuriat en fait auprès des jeunes. C'était une classe de terminale. J'aurais dit, mais en fait, être une femme, c'est trop bien. Clairement, moi, sur mes chantiers, j'ai jamais porté un frigo. J'ai jamais porté un canapé. On a monté plein de meubles à ma place. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais une femme, avec un sourire déjà, on peut avoir tellement de trucs. Je sais pas, tu demandes... T'as un devis et tu demandes une ristourne sur ton devis. Demande-le en faisant la gueule et demande-le avec un sourire. Tu vois ? Et tu te rends compte qu'en fait, c'est trop bien. Et moi, clairement... Je suis tout à fait ok pour l'égalité, hein. Mais moi, entre un mec qui porte le frigo et moi qui porte le frigo, t'inquiète que je le laisse le porter le frigo. Hein. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc, je pense que il faut aussi, c'est là où je vous dis, se renseigner vraiment sur le sujet. C'est que si bien entendu t'arrives et que tu connais pas du tout de vocabulaire de travaux, Eh bien, ça peut être, par exemple, dégonder une porte, tu vois. Enfin, ce genre de truc-là, où ils vont... Une femme, au premier abord, elle va peut-être se dire bah, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Et quand la personne en face, elle se rend compte que vous êtes absolument non-sachant sur tout ce qu'elle vous raconte, bien entendu qu'elle a envie de vous bananer et de se dire « mais en fait, elle y connaît rien et valet, je lui facture un max. » Alors que si vous lui dites « ok, ça... » Et puis j'aimerais bien faire ça ici, et puis là je vais rajouter un truc, et puis sur l'imposte on va faire ça. Et tu vois, c'est des tout petits mots que tu cales un peu partout, où en fait il se dit bah en fait la personne en face de moi elle connaît un peu de trucs. Clairement, ça peut être un écran de fumée grave, ça peut être du bullshit au max, on s'en fout, l'important c'est le résultat, c'est que ça marche. Donc voilà, mettez un peu de votre matière grise en même temps. Je pense qu'il faut être aussi le côté friendly. Moi quand je vais sur un chantier et que je vais échanger avec des gars, Je me balade pas avec, je sais pas, des boutons et un petit jean et un t-shirt et un décolleté, quoi. J'y vais avec un sweat, mes Air Max, et puis c'est tout.
Oui, puis tu les prends pas de haut comme un donneur d'ordre ou autre. Voilà, ils sont là, c'est des partenaires, quoi.
Pas du tout, ouais, c'est ça. Et tu appuies sur le bon mot, c'est que je bosse vraiment win-win avec tout le monde. Tout le monde dans mon équipe, tout le monde est un partenaire complet, c'est jamais un prestataire, et c'est vraiment la différence qu'il faut se faire. C'est qu'on est tous dans la même équipe. Moi je te file de l'argent parce que tu travailles pour moi, ok, très bien, mais en fait si ton job est bien, bah je te garderai pour tout le reste, du coup c'est un vrai partenariat, et s'il y a une galère, bah je te rappelle et puis tu vas intervenir à nouveau, et puis voilà, ça marche comme ça. Et effectivement, t'as très bien appuyé sur la notion pas de donneur d'ordre. C'est que moi, pendant toutes mes phases de travaux, en 2021, je sais pas combien de grecs j'ai mangé avec les gars. Parce que oui, les clichés ne viennent pas n'importe où, et effectivement, les gars de chantier, ils aiment trop les grecs, et en fait, à 16h, ils sont tous partis, surtout le vendredi, et le vendredi midi, c'est déj d'équipe. Ouais, ok. Bah moi, j'aimais bien aussi faire les déj d'équipe, et tu vas sur place, et t'échanges. Et en fait, bah il y a aussi... je dirais pas de l'affection qui se met, mais un peu de... Déjà, l'autorité n'est pas forcément due à avoir un langage dur en face. Le client chiant ne va pas forcément avoir un meilleur chantier que le client sympa. Au contraire, quand vous êtes sympa, on a aussi envie de vous tendre la main et de vous filer des coups de main. Et moi, je sais qu'il y a plein de trucs aussi dans mes chantiers, par exemple, des petits traîneaux, des petits trucs que j'ai pas payés, par exemple. Parce que, de l'un, je pense que je suis une cliente sympa, que je paye en temps et en heure, et que comme j'ai, je dirais, une masse en termes de flux d'entretien, ils se disent, ouais, ben, je vais pas lui faire payer, je sais pas, une bombe de lavabo qui déconne, parce que, bah, en fait, elle me donne du travail au quotidien, tu vois. Donc, il y a vraiment le côté partenaire win-win qui est important, pas de donneur d'ordre, se mettre à la place des gens, en fait. Un plaquiste, bah, il vaut pas moins que vous. Un mec qui fait du carrelage et qui parle même peut-être pas français, parce que ouais, il y en a plein sur les chantiers qui parlent pas français. Bah en fait, c'est pas pour ça que tu peux lui parler mal. Moi bah je leur ramenais, enfin on se buvait une bière sur le chantier et c'est cool, quoi. Donc il faut aussi je pense un côté friendly et humain avec les gens qui est important. Et je pense que plus vous donnez aussi, vous tendez la main aux gens, plus on vous la tendra au retour. Et pour éviter de se faire bananer, vraiment, il faut avoir un peu de connaissances et se renseigner. Et quand vous avez l'intention de développer vos connaissances dans un truc, vous le faites. Clairement, il faut mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Si ça vous saoule dès le début, bon bah voilà, il faut en être conscient et c'est tout, quoi.
Belle conclusion en tout cas sur la partie travaux et relations avec les artisans. Je partage tout à fait, même si c'est difficile de trouver des artisans qui partagent aussi cette vision parfois et qui sont très one shot, tu vois, et la plupart sont très one shot en fait, hein. Et moi je trouve que c'est assez difficile de fidéliser quand même des équipes une fois que tu les as trouvées. C'est pour ça que je pense que c'est bien de faire comme tu fais, et vraiment de voilà, d'en faire des vrais partenaires sur le moyen long terme, mais tous n'ont pas une vision moyen long terme malheureusement. Et donc, du coup, peuvent aussi te claquer dans les doigts, quoi.
Alors, je pense qu'il y a aussi... faut un peu bosser la PNL, quoi. PNL...
Okay, rien à voir avec le nouveau rap d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
Ouais, grave. Bien vu. C'est vraiment votre façon de penser. Il y a la rhétorique aussi, là, de parler, les mots que vous allez employer, etc. Et c'est un peu comme quand vous allez demander un financement en banque. Tu vois, moi j'aime trop mes interlocuteurs, c'est, je les ramène dans mon histoire en fait, je leur raconte mon truc. Et comme quand vous êtes passionné sur un sujet, bah en fait les gens vous écoutent, c'est trop intéressant quoi. Eh bien pour obtenir un financement, en gros c'est pareil, c'est en fait je vais faire ça et ça va être trop bien. Et là vous voyez, ça c'est de l'avant, ça c'est l'après. Et quand tu vois que ça touche la personne dans son cœur, eh bien tu vas avoir toujours beaucoup plus de facilité à lui donner aussi. Bah lui laisser sa chance tout simplement et en réalité bah c'est un peu pareil pour tout je pense.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu peux nous pour finir sur la partie travaux, tu peux nous parler justement de cette problématique d'inondation de cave.
Eh oui, bien vu. Alors c'était vous savez les deux colocs que j'ai achetés du même propriétaire à 110 000 chacune là.
Encore lui, encore lui.
Et ouais. Et en fait eh bien, quand j'ai acheté, pas de sujet, hein. Enfin, j'ai visité, la cave elle était nickel. Je savais qu'il y avait un peu de charbon, mais il y a des villes, pas mal de villes d'ailleurs dans le nord de la France, où ils il y avait beaucoup de villes de charbon et ils entreposaient du charbon dans les caves. Ok. Et donc, il s'est passé un an et demi, deux ans, voilà. Pas de sujet. Et en fait, eh bien, un jour, j'ai quelqu'un qui doit venir relever le compteur d'eau. Ok. Bon, eh bien, moi, bon, les colocs, elles étaient au courant, tout ça. Et là, j'ai une colocataire qui m'appelle, qui me dit, bon, je crois qu'il y a un souci, je vous passe la personne pour le compteur d'eau. Et là, il me dit, écoutez, j'ai jamais vu ça. Et je peux pas aller relever l'eau, parce qu'il y a un vrai problème, et je pense que... il était un peu affolé. Et je pense qu'il y a un vrai gros souci. Ok, et là il me dit en fait il y a peut-être plus d'un mètre d'eau dans la cave puisque le compteur d'eau il est au fond. Et là je me dis oh flûte. Je vous avoue que sur le moment je me suis dit oh la merde, je dois avoir une fuite et ça va me coûter une blinde parce que pour mettre un mètre d'eau dans la cave je me suis dit grosse galère quand même. Donc premier truc déjà, j'avoue que tu te dis ok, la facture c'est moi, c'est les locataires, c'est l'assurance, comment ça passe, qu'on fait comment. Donc là j'appelle mon équipe technique, je dis ok les gars, y a une galère, faut que vous alliez sur place, il va falloir pomper l'eau, ok on y va. Et puis donc ils vont voir et puis on se rend compte bah en fait que c'est pas une petite pompe, la pompe de piscine là, c'est plutôt une pompe à immersion qu'il faut prendre parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Ok, donc ils vont louer une pompe, ils ont mis 5h30 à vider la cave. Ok. Et bien entendu, là, tu regardes ton contrat d'assurance et tu te dis, bon, bah, qu'en plus, c'est pas pris en charge, ça marche pas, ok. Et là, il me dit, bon, il y a un sujet, c'est que il n'y a pas de fuite d'eau. Ok. Donc là, déjà, moi, premier truc, tu souffles. Et en même temps, t'as le deuxième déclenchement interne qui se dit, attends, mais si c'est pas une fuite d'eau, c'est quoi?
Ben ouais, ça vient d'où?
C'est quoi? Et donc là, moi, je partageais un peu sur les réseaux, sur mon compte Insta. Et donc, j'ai une personne qui me suit, qui réagit, qui me dit, moi, je sais, et c'est la société d'ailleurs qui s'appelle Mur Humide, et il me dit, c'est ça, il me fait tout un topo et tout. Et là, sur le coup, moi, je me dis, ouais, il me sort un jargon pro monstre que je comprends pas. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, je dis ouais, attends, je vais quand même retester, on sait jamais, fuite ou pas fuite et tout. Et je lui dis là, la cave elle a été intégralement vidée, j'attends de voir, tu vois. Et en fait, une semaine plus tard, bah l'eau elle était remontée. Elle était remontée, donc là je me suis dit OK, bon, c'est un peu la merde quand même. Je recontacte cette personne, ultra sympa, qui se déplace, il vient voir, ils sont d'ailleurs présents sur toute la France, donc vraiment vraiment top. Et là, ils me disent, bah compliqué, en gros, bah c'est remonté de nappe phréatique. Et en fait, qu'il y a eu, avec les bouleversements climatiques qui se sont passés, eh bien, il y a eu dès qu'il pleut fort d'un coup, eh bien ça fait des changements souterrains, des circuits d'eau. Et moi, bah j'ai pas eu de chance, c'est que c'est tombé sur ma tronche. Et j'étais pas très loin. Alors, c'est clair que si vous voulez éviter, déjà vous achetez très très loin de potentielles rivières ou cours d'eau, quoi. J'étais pas excessivement loin non plus, mais dans la rue, ça avait pas été déclaré. Dans les papiers de diagnostic, quand vous achetez, il y avait rien de particulier. Ok. Bon, il passe, il me fait un devis complet avec un cuvelage de malade, tout un truc, des puisards. Donc ça veut dire quand même qu'ils pètent la dalle au fond. Ils vous intègrent, moi, ils m'ont mis des puisards, mais c'est des puisards, je sais pas, qui doivent faire entre 40 et 60 cm de.
Ouais, j'ai vu sur tes vidéos, là, c'est balèze, hein, c'est balèze.
Avec deux pompes de relevage, pour pouvoir évacuer l'eau, parce qu'il faut bien dire que face à l'eau, on n'est absolument rien. Donc, au lieu de bloquer l'eau, parce que ça marcherait pas, il faut juste pouvoir la drainer et l'évacuer, en fait. Donc, ils font tout un drainage de la dalle, de trucs en long, en large, en travers, un cublage complet, les puisards, les pompes de relevage, tout ça. Bon, clairement, c'est quand même une facture à 12 000 euros.
Ouais.
Donc, et c'est un imprévu qui, malheureusement, ne pouvait pas être prévu, parce que, bah, quand moi j'ai acheté, il y avait pas d'eau. Tu peux pas forcément t'en rendre compte. L'assurance ne prend pas en compte, parce que ça ne passe pas en événement climatique. C'est pas une tornade ou un truc déclaré. Parce qu'il faut pas oublier, un contrat d'assurance, pour que ça se passe en événement climatique, ça doit être déclaré par le préfet. Donc là, clairement, rien. Je peux pas dire que c'est un PER qui a pété et qui a mis un étau dans ma cave, tu vois. Donc,
T'aurais eu du mal à justifier 12 000 euros avec un puisard, etc. Non. Pour un PER qui pète.
Improbable. Donc, là, bah, clairement, je me suis dit, ok, ça va que j'ai un cash flow confortable et que j'ai mis de l'argent de côté. Parce qu'en plus, bah, c'est 12 000 euros d'imprévu qui tombe sur la tronche. Et tu ne peux pas ne pas agir. Mmh. En plus. Parce qu'en plus, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il en devient de la solidité de ma maison? Ok? Est-ce que ça va toucher, moi, les rebords? J'en sais rien. Est-ce que ça va remonter? C'est de la brique. Donc, dans les briques et me fragiliser tout ça. Est-ce que, bah, on est à la cave, mais quand même, est-ce que je vais pas me retrouver avec de l'humidité partout? Puisque bah ça remonte, quoi.
Oui, il faut qu'elle sorte quelque part. Donc si t'as de l'enduit ou du placo partout, au bout d'un moment, il faut que ça sorte.
Catastrophe. Ouais. Donc tu dis, ok, faut agir. Et puis, en même temps, si un jour j'ai envie de revendre, je peux pas revendre en disant, il y a un mètre d'eau dans la cave. Je revends l'été, parce que comme ça, à la limite, il y a moins d'eau et pas de galère. Non, enfin, faut faire les trucs clean, quoi. Et donc voilà, ils sont intervenus. Il y a eu un mois d'intervention entre le temps d'analyse, pour vider. Je vous ai dit qu'il y avait du charbon dans cette cave.
Oui.
Ils ont sorti 52 sacs de charbon. L'enfer du truc. Et puis, bah voilà, ça s'est résolu. Donc là, j'ai une cave toute magnifique, toute neuve. Chance que j'ai eue aussi, c'est que moi, les autres caves des colocs, elles sont réaménagées en buanderie. Et il y a les ballons d'eau chaude. Ah, heureusement ouais. Que ouais. Ça n'est pas arrivé là et que ça arrivait.
Si tu mets de l'électricité là-dedans, c'est sûr que
c'est la
fin dangereux.
Ouais.
Voilà. Donc, bon, ok, donc une histoire voilà. Qui se finit bien, quoi, au final.
Qui se finit bien, qui coûte un bras, ouais. Mais avec une équipe
géniale. Et encore,
Ouais, c'était une petite cave, hein, quand même. Vraiment une petite cave. Une équipe top, parce qu'en plus, bah moi, je leur avais laissé un double des clés de l'entrée, mais ils prévenaient les locataires quand ils venaient, ils faisaient le ménage quand ils partaient. Donc parce que c'est quand même des choses où tu remues, il y a beaucoup de poussière, donc c'était toujours clean, bonne communication. Franchement, je les recommande à 300%, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est rare de trouver des gens qui sont clean, et là en l'occurrence j'ai vraiment eu un super échange.
Donc il s'appelle comment pour ceux qui nous écoutent? Mur Humide, c'est ça?
Mur Humide, ouais.
Mur Humide, c'est un bon nom de boîte, ça.
Ouais, c'est grave.
En termes de branding, c'est balèze. Mur Humide, ok. Et bon, attends, parce que taper Mur Humide, c'est compliqué sur Google, hein, pour les trouver. Hein. Ils sont où? Le siège est où?
Ils sont partout. Bah, tu tapes peut-être Mur Humide Société, je pense. Ouais, murhumide.fr.
Murhumide.fr, ok. Ah ouais, ok. Mur au singulier.
Okay. Absolument, oui.
Mur humide au singulier.
Il traite tout ce qui peut être petite trace.
Les professionnels de l'humidité.
Okay. L'humidité, ils font même la mérule, tout ça et tout. Donc,
ah, c'est cool. Cool.
Donc,
c'est cool.
Voilà, super. C'est bon plan.
Ok. Laetitia, si tu nous écoutes, ça va peut-être t'intéresser pour ton studio que j'ai visité la semaine dernière, qui a des murs un peu humides. voilà. Écoute, merci Ameline, c'était cool, chouette pour les échanges. Écoute, on a déjà 1h20 d'enregistrement, je crois que c'est mon record, donc c'est pas mal. J'ai déjà fait 1h15, mais 1h20, pas encore. Merci beaucoup pour toute la valeur que tu as partagée. T'es assez active sur Instagram. Est-ce que tu peux nous partager justement un peu tous tes réseaux, comment les gens peuvent rentrer en contact avec toi?
Ouais, bien sûr. Alors, sur Instagram, Reelimo, donc REEL-du-bas Imo, I-2-M-O. Attention, parce que j'ai énormément de fake en ce moment, c'est une catastrophe.
C'est la rançon de la gloire, ça, ma pauvre, c'est comme ça.
Ah ouais. Donc, vous faites pas avoir, je ne demande pas d'argent en message. et puis après, vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn, donc Emeline Siron. Je suis beaucoup moins active dessus, beaucoup plus sur Instagram. Voilà, tout simplement. Et sur le site evermind.group.
Pour toutes les notions de formation et de coaching, notamment, c'est ça?
Tout à fait.
Ok, t'as vu, je fais bien la promo.
Eh, belle promo, tout à fait. Oui.
Par contre, je viens de voir que tu me suis pas sur Insta, ça va pas du tout, il va falloir que tu t'y mettes.
Alors écoute, je suis désolée. je n'ai absolument aucune excuse. Je vais remédier à ça de suite. Voilà, c'est fait.
Les auditeurs iront vérifier, hein, je les mandate pour se faire.
J'en dis ça.
Bon, ça marche. Merci encore, Emeline, pour ton temps et ta gentillesse. Écoute, on continue à te suivre sur les réseaux. En tout cas, c'est très chouette ce que tu fais. Continue comme ça. C'est bien d'avoir des personnes aussi dynamiques que toi à peine 29 ans. Attention, les 30 ans ne sont pas loin, mais je pense que c'est pas quelque chose qui t'affecte.
Bon, j'ai pas trop le temps pour ça.
Ouais. Non, mais tu t'as pas l'air de faire partie de ces gens que l'âge affecte, donc c'est cool.
Eh bien, détrompe-toi. Il y a eu pendant quelques temps où ça me stressait parce que c'est vrai que t'as une pression de la population qui te disent. Est-ce que t'as fait ça, et j'étais beaucoup dans la réalisation personnelle aussi, c'est le besoin de reconnaissance, et en fait au fur et à mesure du temps je suis tellement dans trop de projets, trop de développement de boîtes, de trucs, que j'y pense plus trop. Voilà.
L'important, c'est ce que tu fais de ce temps-là plutôt que d'attendre de le voir passer. Voilà, écoute, merci encore, à très très vite. Merci encore à tout le monde aussi d'être là, d'être présent chaque semaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, mais je n'ai pas trop de doutes sur le sujet. À très vite, du coup, dans quelques jours pour une prochaine capsule en solo, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité toujours aussi quali comme Emeline aujourd'hui. Merci Emeline, à très vite.
Merci.
Ciao tout le monde. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, notez ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.